Vous écoutez
RMC. RMC, jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h07 de retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin David Douillet, Jérôme Pinault, Marc Madio, Christophe Cessieux. Nous sommes ensemble jusqu'à midi. Merci infiniment de votre fidélité. On a parlé de France-Croatie à partir de 9h. C'est déjà en ligne en podcast. Vous allez pouvoir réécouter ça cet après-midi tranquillement. Dans quelques instants, nous allons débriefer le Grand Prix de Chine et la victoire d'Oscar Piastri, la deuxième place pour Lando Norris et puis les Ferrari 5e et 6e. On s'attardera évidemment sur Ferrari. 10h30, le Tour 2027 qui partira d'Édimbourg en Écosse, on a appris ça cette semaine. Oui, il me fait les grands yeux, Marc Madioué, c'était l'une des informations de la semaine. Ce sera le cinquième départ de l'étranger sur les 6 dernières éditions. Est-ce que c'est trop les GG? Ce sera tout simplement ma question. Et puis 10h45, un dimanche de dingue en biathlon entre le suspense fou avec notre Française Lou Jean Monod et la DER des frères Beu. Nous serons en direct d'Oslo. Mais tout de suite, direction la Chine et la Formule 1.
L'extinction des feux, départ pour le moment d'Oscar Piastri, apparemment très bon, mais attention à George Russell à l'intérieur qui essaie de s'infiltrer au freinage du premier virage, mais non, c'est passé pour Oscar Piastri, alors que l'autre, McLaren, celle de Lando Norris, a pris un très bon départ également. Il se situe en deuxième position pour le moment au détriment de Russell. Derrière on a Hamilton, quatrième, Leclerc cinquième, Verstappen qui a pris lui un mauvais départ, il était parti quatrième, il est maintenant sixième. Oscar Piastri, le leader donc de ce Grand Prix de Chine, deuxième Grand Prix de la saison 2025. Il va remporter la troisième victoire de sa carrière de pilote de Formule 1, un Grand Prix de Chine qui confirme évidemment la domination des monoplaces aux couleurs papaya, des couleurs orange de McLaren. Le troisième, eh bien, c'est George Russell avec la Mercedes. Russell qui était parti lui sur la première ligne de la grille de départ aux côtés d'Oscar Piastri.
Et voilà pour le résultat il y a quelques instants de ce Grand Prix de Chine avec ce doublé McLaren, comme le dit Jean-Luc, on pouvait s'y attendre à cette domination en début de saison des McLaren. Oscar Piastri, Lando Norris, quatrième place donc pour Max Verstappen. Ça va un peu mieux pour les Ferrari par rapport au premier Grand Prix de la saison, le Grand Prix d'Australie la semaine dernière, où ils avaient signé une huitième place pour Charles Leclerc, une dixième place pour Lewis Hamilton. Là c'est 5 et 6, cinquième pour Charles Leclerc, sixième pour Lewis Hamilton. Jean-Luc Roy est avec nous, rebonjour. Bonjour Jean-Luc.
Oui, rebonjour JC et rebonjour à tous.
Mais c'est vrai que ce Grand Prix n'a pas été de tout repos pour les deux Ferrari. Il y a eu un petit peu de friture sur la ligne. Est-ce que tu peux nous expliquer tout ça?
Oui, bien sûr. Bah écoute, effectivement, comme tu le rappelais, ça allait un petit peu mieux ou un petit peu moins mal, comme on veut, puisque avant le début de la saison, on espérait évidemment que les Ferrari soient au niveau des McLaren. On a compris rapidement dès l'Australie que ça n'était pas le cas. Alors, c'était un Grand Prix atypique, hein, on le répète, parce que le tracé à Melbourne est différent, il n'est pas permanent, et puis il y a eu évidemment les conditions météorologiques qui ont été particulières. Là, la Chine permet déjà d'y voir plus clair, et on a bien compris qu'avec le cinquième temps d'Hamilton et le sixième aux essais, on n'était pas tout à fait dans le coup, on rendait quelques dixièmes et c'était constant, puisque les deux pilotes disaient qu'ils n'avaient pas fait une mauvaise qualif, mais qu'ils ne pouvaient pas faire mieux avec le matériel dont ils disposent. Et puis juste après le départ, c'est là que tu veux que j'en vienne et j'y viens, et bien effectivement Lewis Hamilton se trouvait devant Charles Leclerc. Charles apparemment a pris un très très bon départ et s'est trouvé peut-être en mesure de remonter au niveau d'Hamilton. Après c'est un fait de course, hein, il ne faut pas en faire des tonnes non plus. En tout cas, le museau avant, la moustache avant gauche de Charles Leclerc est venue en contact avec le pneu arrière droit de la Ferrari d'Hamilton, ce qui fait qu'une partie de l'aileron avant a été arrachée. Alors là où ça devient rigolo, c'est qu'on se dit oula, il va peut-être falloir l'arrêter pour changer de museau, ou en tout cas il va être handicapé en termes de performance. Et ben pas du tout, puisque Charles Leclerc était nettement plus rapide que Lewis Hamilton dans le début de course. Donc on s'est demandé à quel moment on allait peut-être demander à Lewis Hamilton de laisser passer son équipier. Et bien on l'a demandé à peu près au 20e, 21e tour. Il a mis un tour et demi à s'exécuter. Bon, c'est pas scandaleux non plus, hein. Il a dit « J'attends qu'il soit vraiment très près de moi ». Et il l'a laissé passer à un moment. Et puis après, effectivement, Charles Leclerc était plus rapide. Donc, il a creusé un écart de 2 à 3 secondes sur Lewis Hamilton. Ensuite, eh bien, on n'a pas mis ses œufs dans le même panier. C'est-à-dire que la majorité des pilotes de pointe, et la majorité du plateau d'ailleurs, ne s'est arrêté qu'une fois. Pour ce qui concerne Leclerc, c'était au 16e tour. Russell également. Piastri également. Norris également. également. Le premier à s'arrêter, c'était Verstappen. Et on a arrêté Lewis Hamilton, qui s'était arrêté au même tour que Verstappen, le 14e. On l'a arrêté à nouveau au 38e tour pour tenter de lui monter un package de pneus neufs. Et il termine sur les talons de Leclerc. Il y a vraiment très peu d'écart. Il y a à peine 2 secondes d'écart à l'arrivée entre les deux hommes. Ça veut dire que les deux stratégies se valaient. Alors la question, c'était évidemment de savoir... Premièrement, cet accrochage. Est-ce qu'il faut en faire des tonnes ou pas? Leclerc n'a pas protesté. Hein. Hamilton a juste dit « on m'a touché à l'arrière ». Évidemment, il n'a pas vu qui c'était forcément. Et voilà l'histoire. Donc, est-ce que c'est un début de polémique? On va voir.
Ben justement, on va en parler avec les grandes gueules du sport, la musique qui fout les jetons et cette question, mes amis. Non, on va pas forcément faire de musique. Mais est-ce qu'on va droit vers les problèmes avec Ferrari? Qu'est-ce que vous en pensez, Marc Madiot?
Oh, ça peut devenir un problème. Pour le moment, ça n'en est pas un. Il y a quand même un immense respect entre Leclerc et Hamilton. Hamilton, c'est quand même le pilote référence dans la Formule 1 aujourd'hui. Donc, je pense que Leclerc ne rentrera en conflit avec Hamilton que s'il se sent vraiment supérieur et qu'il prend la main régulièrement en course. Après, je pense qu'il y aura un autre match qui va être intéressant à suivre. Là, nous, on est très polarisé sur Ferrari, mais je pense qu'il va y avoir un autre match qui est en train de se mettre en place, et Piastri Norris chez McLaren. Et ce sera peut-être plus violent et virulent chez McLaren que ça ne le sera chez Ferrari.
Ok, tu penses que le match sera plus violent entre les McLaren que Ferrari?
Oui. Ouais, tout à fait d'accord avec Marc, et c'est exactement là-dessus que j'allais venir. Je pense que Ferrari va savoir gérer cela parfaitement. Charles Leclerc a un énorme respect envers Hamilton. Hamilton, je pense qu'il a aussi ce rôle-là aujourd'hui, cette référence-là, donc de gérer tout cela. Il va savoir le gérer, même s'il est impulsif au volant, et ça c'est normal, il reste compétiteur. Je pense que là, oui, la mayonnaise risque de partir à la vinaigrette plutôt chez McLaren. Là, il va falloir gérer deux jeunes loups, deux pilotes qui ont envie de se marcher dessus pour gagner.
Et surtout qu'ils sont au même stade de carrière.
Il n'y a pas de pilote numéro. A priori, il n'y a pas de pilote numéro.
Il n'y a pas de hiérarchie chez eux. Il n'y a pas de différence, si tu veux.
L'année dernière, ça ne posait pas un problème chez McLaren. Ils disaient non.
Quand tu te mets à gagner, et l'un gagne le premier Grand Prix, l'autre gagne le deuxième, tu vas voir qu'à force de gagner et d'être proche pour aller chercher le titre de champion du monde, ça peut poser des problèmes.
En même temps, c'est ce qui fait la beauté de ce sport.
Chez Ferrari, entre Hamilton et Leclerc, ils vont terminer entre 5 et 6e chaque Grand Prix. Vu comme c'est parti, bon, il y aura peut-être des tensions. Mais a priori, ils vont pas se bagarrer pour le titre mondial. Hein. On a bien compris que la Scuderia marchait, mais pas aussi forte que les Orange. Quoi.
Bah, ça, c'est déjà un problème pour Ferrari. On attendait Monza et Vermeil. Si on joue les 5e et 6e places.
C'est le problème de Vasseur. C'est pas le problème des deux pilotes.
Mais ça peut devenir le problème des pilotes quand même.
S'ils jouent la gagne dans les Grands Prix et le titre.
David Douillet.
Moi, je pense que Ferrari est en train de progresser. Enfin, faut quand même rappeler qu'Hamilton a gagné la course sprint. Hein. Ce Grand Prix de Chine. Donc avec la manière et j'ai trouvé dans les déclarations qu'ils ont pu faire l'un et l'autre lors des séances de qualif par rapport à leur temps, par rapport à leur prestation, on a deux pilotes intelligents. Voilà, on a deux pilotes qui veulent faire évoluer les voitures, on a deux pilotes qui travaillent pour l'écurie, qui travaillent ensemble. Donc je suis d'accord avec tout le monde, le problème n'arrivera pas entre les pilotes. En revanche, si on a deux stratégies, parce que c'est ce que j'avais pu lire avant la course. Hein. On peut avoir deux stratégies sur deux voitures identiques de base, avec des réglages qui sont différents et pour l'un et pour l'autre. Et ils sont capables de s'adapter, enfin d'adapter les bienfaits que l'un découvre, et en particulier Lewis, qui a une expérience qui est plus grande que Leclerc sur le réglage des voitures, et de l'apporter à l'autre. Donc, et je pense pas. Donc le problème, ce serait de la jalousie. Vous me piquez mon expérience, moi qui suis Hamilton avec mes 8 titres, et vous le mettez au bénéfice de Charles. Je crois qu'Hamilton est beaucoup plus intelligent que ça et qu'il va vouloir, au stade de sa carrière, faire évoluer plus l'écurie que lui-même. Et j'ai noté, je sais pas si vous avez vu les dernières images, et je reviens sur McLaren, vous avez vu l'image de fin où on a une photo qui est faite avec Piastri, avec Zak Brown et avec Norris. Ils font une photo tous les trois, et d'un seul coup, il y a Norris qui s'arrache des bras de Zak Brown. Donc il y aura peut-être pas de problème entre les pilotes, parce que je pense qu'ils se respectent et chacun veut tirer le meilleur de lui-même, et là-dessus, il n'y a pas de sujet. Par contre, il y a peut-être un problème déjà entre Norris et Zak Brandt.
Ah bah, alors, vous voulez en parler, il n'y a pas de problème. Je clôt juste le chapitre Ferrari, parce que je sens que c'est plutôt vers McLaren que vous voulez aller, les copains. Juste écoutez Charles Leclerc, après la course, au micro du diffuseur Canal+, vous avez la question du journaliste, vous allez voir, ça va un peu tout dire.
Vous étiez quand même plus rapide qu'Hamilton, d'ailleurs, avec cet élan cassé.
Oui, après, je n'ai pas tout regardé. Lewis était très rapide hier, il était un petit peu moins aujourd'hui, mais bon, de mon côté, on a fait quelques changements, je me sentais un petit peu mieux en course, j'étais un petit peu moins mis en qualif. C'est une balance.
À la fin, même Verstappen, vous êtes cinquième, ça fait deux grands prix sans podium le dimanche pour Ferrari. Ce début de saison, comment vous le jugez?
Ah, pour l'instant, difficile. Après, c'est le tout début de saison, il n'y a que deux courses de fait. Mais clairement, c'est difficile. Surtout sur le tour qualif, on est en deçà des performances attendues. Donc il va falloir qu'on bosse sur ça parce que c'est ça qui nous met après en difficulté.
Voilà pour la première réaction au micro de Canal+, donc de Charles Leclerc, tout va bien.
Oui, et en plus sur la balance du Grand Prix, Jean-Luc est encore sera mieux placé pour que moi pour en parler, mais il est vrai qu'on lui demande tard à Hamilton de laisser passer Leclerc. Avec son aileron cassé, il va plus vite sur la première partie du Grand Prix, mais sur la deuxième partie du Grand Prix, Hamilton est beaucoup plus rapide que Leclerc. Donc au final, on peut pas se plaindre de cette stratégie-là. Il s'est passé quelque chose. On peut se plaindre, par contre, et c'est ce que fait Leclerc, de la performance de la Ferrari sur les qualifs et les performances qui sont en deçà des attentes pour la Scuderia cette année pour l'instant.
Okay. On est sur des bons éléments de langage.
Oui, on est d'accord quand même. Après le Grand Prix de l'année, de la semaine dernière, voilà. On ne veut froisser personne. Là. On ne veut pas parler de stratégie, on veut tout va
bien. Est-ce qu'on a le droit de parler de français? Moi, je trouve que Ocon a fait un formidable Grand Prix. Il fait septième, hein, faut quand même le souligner. Et je trouve que Isaac Hadjar fait une entrée dans la Formule 1 qui est, même si au Grand Prix d'Australie malheureusement il est resté dans les stands, mais c'était tout à fait particulier, mais là ce qu'il monte sur la piste c'est tout à fait stupéfiant, notamment sur la fin du Grand Prix où il est toujours à l'attaque, même dans des zones où il n'est pas sur les points, mais je trouve qu'il a un état d'esprit de fou furieux, et j'ai l'impression qu'Ocon est en train d'éclore, et la septième place le prouve chez Haas, et ça c'est intéressant quoi.
Bah on va parler des Français avec Jean-Luc Roy.
On n'a pas de nouvelles de Flavio.
Arrête avec Flavio Briatore. Les Alpines. Non, mais plus tard, Flavio. Je sais que tu veux le placer à chaque émission où tu es présent. C'est ton running gag. Il n'y a aucun problème. Si tu veux, on en parlera pendant la publicité de Flavio Briatore. Mot sur les McLaren. Raison. Jean-Luc, est-ce que tu rejoins un petit peu les GG sur les problèmes à affronter là désormais pour McLaren?
Ben je les rejoins totalement. Tu m'as posé la question sur Ferrari, donc je me suis cantonné évidemment sur la répondre à ta question et le sujet, mais je suis entièrement d'accord avec vous tous, bien sûr. Ben de toute façon, l'enjeu là, ça va être clairement le titre de champion du monde, hein. Donc on a compris que, en tout cas, ce début de saison, parce que là aussi les choses peuvent évoluer rapidement, mais ce début de saison, McLaren domine outrageusement, quelles que soient les conditions. Donc effectivement, on n'a pas donné de priorité pour le moment. Alors au championnat, il faut peut-être le rappeler. Pour le moment, Norris reste en tête avec 44 points. Évidemment, derrière, on a une remontée de Piastri avec cette victoire à 34 points. Il y a encore 10 points d'écart. Alors derrière, il y a un sacré paquet très serré, hein. Verstappen a 36 points. Russell en a 35. Piastri, 34. Donc, mais il va y avoir un problème. Ça, c'est clair que on a. Parce que moi, je crois beaucoup au body language aussi. Et tu as raison de souligner que le pire, peut-être, dans les victoires à McLaren, c'est de se cogner le gros Brown qui vient t'embrasser. Bon, non, c'est pour rigoler. Mais je pense qu'effectivement, il va se passer quelque chose tôt ou tard, parce que Norris avait cru comprendre que c'était lui l'enfant chéri, britannique bien évidemment, qui est dans l'écurie depuis beaucoup plus longtemps, etc. Et en fait, ça n'a pas l'air d'être trop le cas. Pour le moment, il n'avantage personne. Donc il va falloir attendre ce que je disais, hein, 5 grands prix. Et là, on en a une série. Là, on a un petit break, mais après, on va voir le Japon, qui est vraiment un juge de paix, parce que c'est un circuit absolument somptueux, magnifique. Et dans la foulée derrière, on va avoir Bahreïn et l'Arabie Saoudite. Je peux vous dire que on y verra très clair, et avant d'arriver à Miami, on verra quelle est l'ambiance chez McLaren et est-ce que l'écurie va faire un choix en fonction des événements ou pas. Donc voilà pour répondre à la question sur McLaren, mais c'est vrai que le sujet, bah, c'est quand même le ou les titres de champion du monde. Alors, le titre constructeur parti comme c'est, je vois pas qui va aller les chercher, mais le titre pilote, c'est pas joué du tout.
Ok, mais on sait que l'année dernière, McLaren n'a pas voulu établir de stratégie, en tout cas jusqu'à très tard dans la saison, pour ne pas froisser ces deux pilotes en disant, attendez, c'est le meilleur sur la piste et tout ça. Là, tu nous dis qu'après deux grands prix, il va peut-être falloir mettre en place une stratégie et savoir qui est avantagé.
Pour le titre, d'autant plus, là, cette année, c'est vraiment, il va falloir faire un choix de priorité pour être champion du monde.
Et les deux sont au même stade de carrière.
Et va expliquer ça à des pilotes.
Ni l'un ni l'autre.
Ce qu'on va leur demander, peut-être, on peut faire une référence à une autre époque McLaren que vous avez tous connue, hein. Vous voyez ce que je veux dire. C'était Senna Prost. Et évidemment, il fallait à l'époque que Ron Dennis gère ça.
Ça s'est bien passé.
Et ça s'est, oui, ça s'est bien passé. Bah, ils ont remporté des titres, hein, l'un et l'autre. Et le titre constructeur à McLaren. Non, ce qu'on va demander aux pilotes, c'est de pas faire les cons, si vous me permettez.
Bah, moi, j'espère qu'ils vont faire les cons et qu'on va assister à ce qu'on a assisté dans les années 80. On a envie de ça, Jean-Luc. On a envie de la bagarre. Ah, mais... On a envie que deux équipiers se mordent les mollets. On n'a pas envie d'assister à des promenades et à des éléments de langage à la fin des Grands Prix. On veut de la baston, quoi.
Okay. Après, ils en sont pas au même niveau de popularité de star system.
Ils sont gentils, quoi.
Oui, puis c'est pas, ils sont pas rendus au même point dans leur carrière.
Évidemment.
Ils sont pas déjà champions du monde, mais si tu veux, ils n'ont pas du tout la même personnalité.
Si on élève le truc au niveau du management, Marc, tu seras le tel meilleur pour en parler ici. Faut qu'ils choisissent clairement lequel va être champion du monde.
Trop tôt.
Ça va se faire sur la piste.
Il y a deux grands prix de disputés.
Tu vas au bout de quoi?
Il y a le nombre de points, les circuits, et il y a des circuits plus typés que d'autres qui permettent d'évaluer de manière plus importante le décalage entre les deux pilotes. Et je pense que c'est ça aussi qui sera pris en compte le moment venu dans le choix de favoriser l'un ou l'autre des pilotes.
Ok, un peu de répit encore. Oui, Jean-Luc.
Si je peux me permettre, oui, juste un mot supplémentaire, c'est que, bon, il domine pour le moment assez nettement, Russell termine quand même à 11 secondes, hein, c'est pas énorme en 56 tours. Et derrière, Verstappen, avec son talent, j'insiste toujours là-dessus, mais vraiment avec la quatrième monoplace du plateau, il termine qu'à 16 secondes. Donc ça veut dire qu'au moindre faux pas de l'un ou l'autre des pilotes McLaren, crac, on a Russell ou Verstappen au moins devant. Peut-être un jour les Ferrari, espérons-le, s'ils arrivent à progresser un petit peu. Mais ça veut dire qu'il va y avoir également peut-être des stratégies différentes, parfois, si jamais les McLaren sont rattrapés par la concurrence.
Mickaël, rapidement au 32-16. Ouais. Salut Mickaël.
Oui, bonjour. Bonjour à tous.
Tu vois, on débriefe le Grand Prix, on est parti de Ferrari pour aller sur McLaren. Les Français, tu veux nous parler de quoi, toi?
De quoi je vous parlais? Alors moi, évidemment, mon gros coup de cœur, c'est Isaac Hadjarin. J'adore ce gamin, oui. Que ce soit sur la piste et tout, c'est fabuleux. Septième temps des qualifs, il est frais, c'est le petit Alain Prost. Hein. Moi, j'adore, c'est fantastique. Ocon, septième place, le dépassement du Grand Prix. Hein, à 300 km/h, les deux roues dans l'herbe, c'était superbe. Après, j'ai été déçu du changement de position. Ferrari, Hamilton, Leclerc. Bon, Leclerc avançait plus vite, mais vous parliez de définir une stratégie. Si demain vous dites, ben voilà, il faut que ce soit Piastri le premier ou Norris le premier, pour nous, on va se faire chier les spectateurs si on sait qu'à chaque fois il y a toujours quelqu'un qui va passer devant et qui va le laisser passer. Non, il faut attendre le dernier moment pour éventuellement statuer, mais il faut les laisser se battre, sinon c'est horrible. Et puis quand même, je retiens la victoire de Lewis Hamilton en sprint. Alors certes, c'est que de la sprint, mais ça montre que quand on part premier en pole, eh ben ça gagne. Donc ce que disait Leclerc, c'est ça, il faut que pour que les Ferrari remontent, il faut qu'ils soient, ils remontent sur la grille, sur les qualifs. Il y a que comme ça qu'on pourra revoir Ferrari gagner un titre de champion du monde, constructeur ou pilote. Voilà, c'est un peu ça que, et après bon, je sens qu'on va bien rigoler avec les oranges. Ça va bientôt se friter, donc ben moi je suis content parce que j'aime bien quand ça va se friter là les deux.
Et oui, et tu es comme toutes les GG, on attend la bataille. Le mot de la fin, David.
Jean-Luc, j'ai une question à te poser. Est-ce que on verra Isaac Hadjar dans le baquet de la Red Bull d'ici la fin de l'année?
C'est une très bonne question, évidemment. Écoute, alors pour le moment, là, Lawson, on va dire, il a pas démérité, il est parti des stands, il termine 15e. Bon,
non, mais il est dans les
81 secondes, ouais, mais il y est pas, c'est clair. Et il termine en l'occurrence derrière Hadjar, hein, qui est parti 7e. Bon, écoute, là, on va dire que c'est un Grand Prix correct pour lui, mais pas suffisant, c'est évident. Et on connaît l'humeur de Helmut Marko, qui a déjà mis la pression. Donc, c'est très possible. Alors, est-ce que ce sera Hadjar ou est-ce que ce sera sera Tsunoda, parce qu'il faut quand même pas l'oublier, hein, c'était lui le prétendant au baquet au départ.
Ouais, mais Tsunoda, pour des raisons qui nous sont connues, apparaît être complètement cramé pour dans cette situation par.
Bah, il fait un bon début de saison. Bon, là, c'est pareil. Il a un problème. On l'arrête d'aileron, mais sinon, il est solide. Hein. Là, c'est trop tôt pour décider également. C'est vrai que Hadjar était devant en qualif, 7e temps. Tsunoda, 9e temps. En course, c'était l'inverse, hein, puisque Tsunoda avait mieux marché au début du Grand Prix. Il était un petit peu devant. Bon, disons que ça a l'air de s'équilibrer. Hein. Donc, ce qui est évidemment un super compliment pour Hadjar qui débute dans l'écurie et en F1. Donc, de là, le faire monter dans le baquet Red Bull. Mais la question va se poser rapidement, ça c'est clair, parce que si Lawson continue à ramer comme il le fait,
moi je pense
qualif,
plutôt pour Hadjar.
Horner, il va pas être très heureux très longtemps. Ça, tu as bien raison. Ouais, et on sait à quel point ils sont capables de changer très vite. Merci beaucoup Jean-Luc d'avoir été avec nous. On se retrouve dans deux semaines pour le Grand Prix du
Japon.
Deux semaines
le Japon, ça va être génial.
Allez, on se retrouve dans quelques instants pour la suite des grandes gueules du sport. Ah, j'ai beaucoup d'amoureux de vélo dans le studio RMC. 5 départs sur 6 à l'étranger. On parle de Tour de France. Est-ce que c'est trop léger? Ils ne sont pas d'accord. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi.
Visiblement, il semblerait que vous n'appréciez pas la bicyclette, mes amis. Hein, vous estimez sans doute que le monde n'a pas besoin de pratiquer le vélo. Hein.
Les grandes gueules du sport.
C'est toi, flagelle la gueule à tout cramage.
Jean-Christophe Drouet.
Oh, si on aime la bicyclette avec Marc Madiot, Jérôme Pinault, David Douillet, Christophe Cessieux. Dans 15 minutes, on vous parle de biathlon à Oslo. On sera avec notre envoyé spécial Julien Richard pour vous parler de cette grande journée. Et on espère un triomphe pour Lou Jean Monod. On est toujours au tennis de table à Levallois, le championnat de France, Léna Marjac, la demi-finale de Félix Lebrun, demi-finale du championnat de France.
Oui, ça va commencer dans quelques instants. Les deux joueurs viennent d'entrer dans la salle à Levallois-Perret. Félix Lebrun, donc opposé à Romain Ruiz, un joueur qu'on ne connaît pas forcément. Évidemment, il joue en Allemagne, en Bundesliga, mais il a été quand même vice-champion de France. C'était en 2021. Et aujourd'hui, il sera face donc au numéro 6 mondial. Félix Lebrun, un des grands favoris de cette compétition. Lui qui veut aller chercher son premier titre national ici à Levallois-Perret. Mais pour ça, il va déjà falloir passer cet obstacle. Romain Ruiz, donc le match va commencer dans quelques instants. Les deux joueurs vont commencer leur réchauffement.
Alors, comme les plus grands groupes de musique, le Tour de France continue sa tournée à travers les pays. Après Copenhague en 2022, le Pays Basque en 2023, l'Italie en 2024, l'Espagne en 2026. Le départ de la Grande Boucle 2027 sera donné en Écosse, à Édimbourg. Pour la première fois, les coureurs feront également une halte en Angleterre, une halte au Pays de Galles. Pour Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France, ce sera le tournoi des quatre nations en 2027 pour le Tour de France. C'est la punchline des GG.
RMC, la punchline GG.
Le Tour est la plus grande course cycliste du monde, et donc la plus grande course cycliste du monde. Si elle veut intéresser les gens, elle doit aller chez eux. Il y a trois manières d'intéresser les gens. Les champions, la Slovénie aujourd'hui est un des pays qui regarde le plus le Tour. Je ne vais pas vous dire pourquoi, bien évidemment, mais on n'y peut rien. Il y a la retransmission télé, les 190 pays qui diffusent le Tour. Et puis il y a ce qu'on peut choisir, nous organisateurs, le lieu du grand départ.
Et voilà le lieu du grand départ. Alors si je compte bien, ça fait 5 départs sur 6 à l'étranger. Est-ce que c'est trop? Oui ou non? Jérôme Pinault?
Non.
Marc Madiot?
Oui.
Christophe Cessieux?
Un peu trop, ouais.
David Douillet?
Non.
C'est un 2 contre 2. Marc Madiot, pourquoi oui?
Bah, tout simplement parce qu'on est au Tour de France. Et qu'on parte de temps à autre de l'étranger me semble normal et économiquement indispensable, mais que ça devienne aussi récurrent me semble beaucoup trop. On est quand même sur le Tour de France. L'épreuve s'appelle le Tour de France. Et alors je sais que c'est pas toujours facile d'obtenir les indemnités financières espérées sur chaque édition du Tour de France avec un grand départ en France, mais il faut quand même être, je pense, raisonnable et ne pas voir que le côté financier des choses, et on a besoin et nécessité d'avoir un Tour de France en France.
Alors c'est vrai que...
Mais Marc,
vas-y David.
Et Marc, tu sais mieux que quiconque,
oui,
que le Tour se joue en France et dans les montagnes. Voilà,
certes, mais si on continue dans ce sens-là, bientôt on fera la moitié du Tour de France à l'extérieur et la moitié, j'exagère, mais on peut se retrouver vite dans une situation où on fera la moitié du Tour de France à l'étranger avant de venir en France.
Mais même si c'était le cas,
je suis pas d'accord.
Ça se jouerait toujours dans les montagnes en France.
Peut-être, mais le Tour de France, c'est le Tour de France. C'est un fleuron de notre nation, c'est un fleuron à l'international, donc je vois pas pourquoi on passerait notre temps à aller le disputer sur des terres étrangères.
Le général de Gaulle n'aurait jamais accepté ça.
Probablement.
On est d'accord, mon cher Marc. Jérôme Pinault, non, je voulais dire, c'est vrai qu'à chaque fois, et je pense que Christophe va y venir aussi, on va sur cet argument financier pour dire que un départ à l'étranger, c'est des millions d'euros en jeu pour l'organisateur. Sauf que
10 millions d'euros pour organiser le grand départ à l'étranger. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de régions françaises, de grandes villes françaises aujourd'hui, si on demande à ces citoyens, écoutez les gars, vous voulez qu'on organise le grand tour ? Bon, mais ça va vous coûter quand même 200 euros d'augmentation d'impôts tous les ans. Vous pensez qu'il y a beaucoup de Français qui vont dire oui au départ du Tour de France ? Eh ben, faites le test et vous verrez.
Il y a un principe de réalité, et ça, t'as raison, ça, c'est sauf qu'on ne l'entend jamais dans la bouche des organisateurs.
Mais non, ils vont pas le dire, tout le monde le sait. Mais parce qu'ils mettent en avant la culture sportive du Tour de France. Mais évidemment,
ça, c'est des éléments de communication, en dehors de
l'organisation sportive, c'est surtout une organisation financière. Ils veulent faire du blé. Et c'est le plus important.
Vous êtes en train de dire, est-ce que la France a encore les moyens de se payer le Tour de France?
En partie, oui.
Elle n'a plus les moyens et certains endroits n'ont plus la volonté aussi. Il ne faut pas avoir peur de le dire. La maire de Rennes ne veut pas entendre parler du Tour de France.
Le maire de Lyon ne veut pas.
Ces gens-là ne veulent pas entendre parler sous prétexte que c'est un problème de marque écologique. On a un problème avec l'écologie, avec une course de vélo. Imaginez-vous dans quelle débilité certains de nos élus sont rendus. Il n'y a plus d'argent dans le vélo. Il est là aussi pour le vélo et pour le sport en général en France.
Arrêtons avec le côté écolo du vélo. Le Tour de France n'est pas du tout une entreprise écologique. Même si aujourd'hui les voitures des patrons roulent à l'électrique, mais enfin
non, mais
il faut deux voitures pour le patron du Tour en cours de route.
C'est ce que je suis en train de te dire, Christophe. Seulement, dans certains endroits, il y a quand même des endroits qui aimeraient bien voir passer le Tour, mais que ça leur coûte moins cher. Le sujet écologique du Tour pour les maires des grandes communes, des grandes agglomérations françaises et pour des régions, c'est une question de pognon. Si moins cher, ils veulent bien faire venir le Tour. Il faut juste être clair. Le maire de Lyon, pour prendre un exemple, il voulait pas du Tour. Par contre, d'aller faire la photo sur le podium pour bien briller pour la marque Skoda, qui est une marque auto, c'est un peu dommage. Là, il y était, tu vois. Ça lui pose pas de problème. La vraie problématique, c'est la volonté politique et économique d'accueillir le Tour. En France, on ne veut plus de grands événements sportifs tels que le Tour de France parce que ça coûte et parce que ça coûte trop cher. Ne me dis pas
qu'on veut pas de l'organisation de grands événements sportifs en France. On n'a pas arrêté d'organiser tous les plus grands championnats du monde, les Jeux Olympiques, les Coupes du Monde depuis 10 ans.
Là où Jérôme a raison, c'est que si on écoute qu'un versant de certains politiques, ils en veulent plus du tout. Ils veulent pas des jeux, ils veulent pas des jeux dans les Alpes.
Cette partie-là, David, on va pas les identifier, mais on sait de qui on parle, qui sont de plus en plus à la tête des grandes villes.
Arrêtez, parce que là on a l'impression que aucun maire et aucune région n'a envie d'avoir le Tour de France. Ils ont une liste d'attente de trois tomes, mais le grand départ c'est autre chose. Mais après organiser un départ ou une arrivée du Tour, demander à tous les maires de France, ils veulent tous une étape, ça reste équilibré financièrement, parce que ça coûte pas le même prix.
Mais le coût du grand départ, ça coûte extrêmement cher, mais c'est quand même dommageable, je trouve, pour l'histoire du Tour de France et pour ce qu'est le Tour de France, qu'on parte aussi souvent de l'étranger, c'est tout.
Ce qui est dommageable, c'est de prendre le sport au piège politiquement à travers l'écologie.
Exactement.
C'est ça qui est scandaleux, parce que dans ce cas-là, faut interdire tous les poids lourds qui vont acheminer les denrées, tous les subsides dont ont besoin toutes les grandes villes françaises. Et c'est le sport qui est toujours visé avec le voyant rouge. Posé sur la tête, donc ça suffit maintenant.
Et puis imaginez
le prétexte de l'écologie est une énorme hypocrisie en réalité.
D'emmener toute la caravane du Tour dans le nord de l'Écosse, comme ça avait été le cas dans le.
Et en plus, ça a un coût supplémentaire pour les équipes, au passage.
Coût supplémentaire.
On n'a pas d'indemnité. Une équipe comme la mienne et comme mes confrères, on n'a pas d'indemnité supérieure pour se déplacer pour partir de l'étranger.
Ça vous coûte plus cher.
Bien sûr, ça coûte plus cher.
Plus cher en coût financier et plus cher en.
Non, mais vous n'avez pas les retombées économiques. Zéro. Pourquoi? Je reste juste là-dessus. Sur un grand départ qui coûte des millions d'euros, ce serait logique.
Déjà, par rapport à nos propres partenaires.
Ouais.
par rapport à nos propres partenaires, Groupama et FDJ, quel intérêt on a en Irlande?
Non, je ne dis pas, est-ce que l'organisation vous verse une partie de la recette?
Zéro. Zéro, pas un centime.
Elle est là, la problématique principale des équipes.
Mais vous êtes déjà monté au créneau là-dessus ou c'est normal?
On essaie de débattre, mais comme il n'y a pas d'unité au niveau des équipes et que les grands organisateurs, mais pas que les Français, sont bien organisés, on n'y arrive pas.
Christophe, toi qui suis évidemment le Tour de France depuis des années, tu sillonnes les routes de France et désormais tu pars à l'étranger, donc pour les grands départs, est-ce que tu vois une différence énorme? Parce que c'est souvent ce qui est vendu. Et franchement, alors, oui, Christian Prudhomme a raison. C'est souvent un spectacle. Ça, c'est magnifique.
Vrai. Ça, c'est vrai que l'engouement lorsque le Tour de France part de l'étranger est beaucoup plus important. Je me rappelle par exemple de ce départ à Copenhague. C'était pas seulement une ville qui faisait la fête, c'était un pays entier. Tous les gens ne pensaient qu'à ça. Tous les gens étaient à bicyclette dans les rues de la ville pendant 4 jours. En plus, il faisait un temps magnifique. Tu avais vraiment senti un engouement incroyable. La même chose quand on part de Hollande. La même chose quand on est parti d'Angleterre. De tous ces pays-là qui n'ont jamais vu le Tour de France et qui effectivement pour eux c'est une véritable fête. Après quand tu pars des grandes villes françaises, c'est aussi la fête, mais on connaît le Tour de France, toutes les grandes villes françaises
on
ont
habitué.
Vu au moins une fois passer le tour chez elles. Donc c'est pas le même engouement, mais l'Espagne, enfin même si en Espagne aux Pays-Bas ça n'a pas été extraordinaire, le départ de Bilbao en termes d'engouement ça n'a pas été total. L'année dernière en Italie c'était vraiment on sent que c'est un pays de vélo
et mais pour toi c'est un peu trop quand même.
Mais je pense qu'il y avait un équilibre qui a été trouvé, qui était parfait. C'était une année sur deux. Et Christian en parlait, il disait, voilà, une année sur deux. Mais là, ils se sont fait déborder. Et aujourd'hui, c'est cinq années sur six. Il y a peut-être un peu trop. Une année sur deux, c'est magnifique. Ou peut-être une année sur trois en France, quoi.
Mais Christophe, faut juste poser la question, pourquoi? À mon avis, et j'en suis à peu près persuadé, il y a une liste longue comme le bras pour accueillir le tour, une étape. Mais pour le grand départ, il n'y a plus personne.
Il y en a, mais pas à 10 millions.
Ben voilà. T'as tout résumé.
J'ai une question.
Ils font moins cher pour les.
Est-ce que dans le modèle économique du Tour de France, ils sont pas aujourd'hui obligés d'avoir une manne plus importante à l'étranger pour que l'ensemble de l'organisation soit aussi qualitative sur l'ensemble du territoire français?
Ils font une addition en bas et il y a recettes dépenses et quand il y a plus de recettes que de dépenses, le bénéfice est supérieur.
Oui, mais attends, je vais reformuler autrement. Est-ce que en France, le captage d'argent est beaucoup moins important qu'avant,
donc ils sont obligés de compenser. Je pense que oui.
Les bénéfices d'ASO.
Pour pouvoir aussi aller faire certaines étapes dans des montagnes où il y a des passages obligatoires pour le tour, où là, le tour prend pas d'oseille. Il faut qu'ils équilibrent. Mais où je rejoins Marc, c'est que ils pensent pas sport et résultats sportifs et équipe. Là, ils pensent bénéfices pour eux, c'est clair.
Mais c'est une entreprise privée, c'est leur mal.
Pour finir, c'est quoi votre ligne rouge? C'est sortir de l'Europe? C'est votre ligne rouge?
On y arrivera. On partira du Qatar, on partira des États-Unis.
Tu sais, il y a eu une époque où on fantasmait sur un départ à New York.
Départ de la Guadeloupe.
Avec le Concorde à l'époque, on s'était dit, dans le milieu, on parlait beaucoup d'un départ de Tour de France à New York. Bon, aujourd'hui, c'est un peu aux oubliettes. Mais si demain, il y a un nouveau supersonique qui voit le jour, pourquoi pas?
Sachant que le Tour de France a le droit d'organiser le départ, le vendredi, une fois tous les 4 ans. C'est ce qui permet justement.
C'est ce qui va être le cas
de rapatrier un peu tout ça. Et donc d'avoir une première journée de transfert, journée de repos le lundi, le premier lundi.
Et le grand départ du Tour de France 2025, c'est à Lille, c'est en France cette année, voilà. C'est assez rare pour le souligner. Christophe Sessieux
sera le même engouement qu'à Florence et à Copenhague.
Évidemment, Marc Madio.
Donc les ch'tis, vous avez intérêt à vous bouger, autrement il n'y aura plus de départ de Tour de France.
Chers auditeurs, c'est le moment de jouer.
RMC vous offre encore 100 000 euros.
Depuis plus d'une semaine, c'est exceptionnel ce qui se passe sur RMC. On vous offre 100 000 euros net d'impôts. Vous pouvez en faire profiter votre famille. Vous pouvez partir en vacances, changer de voiture, 100 000 euros. Il est 10h45. Vous avez jusqu'à 10h55. Vous avez 10 minutes très précisément à partir de maintenant. C'est le top inscription. Vous envoyez RMC au 732-16. RMC au 732-16. Bonne chance à tous. 10 000 euros, ça n'arrive. 100 000 euros, pardonnez-moi, ça n'arrive pas toujours.
10 000.
Vous avez.
Tu peux mettre tes 90 000 dans la poche, toi.
Non, c'est 100 000 euros et vous avez 10 minutes à partir de maintenant. Bonne chance et à tout de suite pour le biathlon.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h48 de retour dans les grandes gueules du sport avec Christophe Cessieux, Marc Madiot, David Douillet et Jérôme Pinault. Dans 11 minutes, restez bien avec nous. On vous parle de ce fantastique Milan San Remo. Est-ce que vous retenez surtout le triomphe de Van der Poel ou le nouvel échec de Tadej Pogacar? Les GG ne sont pas d'accord. C'est à partir de 11h. Un petit point avec les championnats de France de tennis de table. Léna Marjac à Levallois-Perret avec Félix Lebrun bien parti pour se qualifier pour la finale.
Bien parti, 11-7, 11-9 effectivement, Félix Lebrun, 6e mondial, qui mène donc 2-7 à 0 face à son adversaire du jour en demi-finale, Romain Ruiz, vice-champion de France en 2021. Donc pour l'instant tout va bien pour Félix qui joue très très bien, c'est très solide, donc il mène 2-7-0.
Tout de suite, du biathlon à Oslo.
RMC, le dossier des GG.
La première balle, c'est bon pour Loujean Monod. 2 sur 2, 3 sur 3, ça déroule. 4 sur 4, allez la dernière. Le plein, c'est fait. Loujean Monod va remporter cette poursuite. Quelle course magistrale. Loujean Monod s'élancera demain sur la Mastart, la dernière course de la saison, avec le dossard jaune de leader de la Coupe du Monde. Scénario une nouvelle fois complètement dingue. La Française s'impose et Francis Capreuil se termine 5e.
Un suspense incroyable, vous l'avez entendu, en biathlon aujourd'hui. Ça, c'était hier, mais aujourd'hui, ça va être fou également. Une dernière course pour être sur le toit du monde. La Française Loujean Monod va tenter de remporter le gros globe de cristal. On va retrouver notre envoyé spécial Julien Richard à Oslo. Bonjour Julien.
Salut tout le monde.
Hier, la Française a frappé un grand coup, hein, on t'a entendu, avec avant l'ultime course de la saison aujourd'hui.
Oui, elle a survolé la poursuite, c'est sa 8e victoire cette saison, et puis surtout, évidemment, sa rivale pour le gros globe de cristal, l'Allemande Franziska Kaiprois, c'est bien à craquer sur le pas de tir face à la Française dans la guerre des nerfs entre ces deux-là. Cinquième, donc, Preuss, Loujean Monod s'empare du dossard jaune de leader, avant donc la dernière course de la saison, Loujean Monod.
Vous pensez à tous les derniers tirs que j'ai pas réussi à gérer proprement, calmement et avec sang-froid, et j'ai réussi à aller chercher ce sang-froid, et c'est ce dont je suis le plus fier. Ça chamboule, il y a de la peur, de la joie, de l'excitation, du stress, de l'envie et une belle part d'inconnu, donc c'est excitant.
Et dans l'immense tribune d'Oslo, le nouveau cri de ralliement, c'est ce que vous entendez pour les supporters français et les parents de Lou, Sylvain et Didier, qui ont vécu à nouveau un scénario fou.
On a cru mourir.
Super stressant.
On a pris 10 ans, comme à chaque course, mais là c'était x10.
Une guerre des nerfs, fallait être solide, et puis elle a su l'être aujourd'hui, donc c'est génial quoi.
Arrivé à peine franchi, Loujean Monod s'est jeté dans les bras de ses meilleurs amis qui ont également fait le déplacement.
C'est ce qui m'émeut le plus aujourd'hui, c'est d'avoir tout ce soutien et puis des amis et de la famille très proche et très chère. C'est mon énergie de la semaine.
Des amis qui crient en cœur à Loujean Monod, écoutez bien.
Va chercher ce gros clou.
J'espère que vous avez la subtilité.
On l'a, le gros globe.
Un globe,
le globe.
Gloob. Alors qu'est-ce qu'elle doit faire pour aller chercher ce gloob-gloob, ce gros gloob? Le plus simple, le plus efficace pour les nerfs de tout le monde, ce sera de terminer tout simplement devant Franziska Preuss. Sinon, il va falloir sortir les calculettes. Mais en gros, si Preuss termine 4e, 5e, 6e, 7e ou 8e, Lou doit absolument être juste derrière. Et évidemment, si Preuss gagne la course ou termine 2e ou 3e sur le podium devant Lou, ce sera pour l'Allemande le gros gloob.
Et ce sera incroyable et ce sera à suivre sur RMC en direct en intégralité cette dernière course de la saison. Tu peux nous rappeler l'horaire, Julien Richard?
13h15 le départ.
13h15 le départ à suivre sur RMC dans Stephen Brunch avec Stephen Brun. Je sais que vous étiez aux commentaires aussi, Christophe Cessieux.
On était avec Julien et Jérôme hier, on était comme des fous. Il y avait Milan San Remo, mais on regardait le
comment
biathlon.
Comment ça?
Ouais, non, mais c'était
avant la Cipressa.
Après, le biathlon, on l'a mis de côté.
J'ai eu peur.
On est resté focus quand même sur cette course, mais on a vécu un beau début d'après-midi. Non, c'est vrai que c'est sympa, mais le biathlon, on le répète régulièrement, c'est un sport magnifiquement télévisuel où le suspense est relancé à chaque tir
et pour
à sa cible manquée.
C'est vrai, mais c'est rare que tout se joue sur une course quand même. C'est la beauté aussi de ce dimanche. Pour le coup,
parce que là il y a 5 points d'écart entre les deux jeunes femmes, elles se tirent la bourre, une fois c'est l'une qui est en tête, la fois d'après c'est l'autre, donc on sait vraiment pas qui va pouvoir remporter ça, parce qu'il suffit d'une balle ratée, une cible manquée et paf, adieu le gros globe, hein, il y aura plus de globe du tout, hein.
Donc, ce qui est d'autant plus excitant, c'est que jusque là Preuss faisait un preuve d'une régularité allemande. Tu sais, c'était sur les skis, elle prenait zéro risque, mais elle était toujours là, elle tirait juste, etc.
Elle a craqué sur un tir, sur les derniers.
Ce qu'on, nous, dans notre esprit français, on pense plus ça de nos Françaises, de nos athlètes. Oui. C'est, on a plus l'habitude de ça.
Oui.
Et à l'inverse, Lou est plutôt, elle, voilà, c'est quelqu'un qui est pétillante, qui peut se trouver totale. Et là, depuis qu'elle arrive dans ce Money Time, elle est ultra régulière. Hier, elle a tiré, non seulement elle a bien tiré, mais elle a tiré très vite, ce qui n'est pas toujours son habitude. C'est juste très excitant de savoir qu'aujourd'hui, elle est quasiment dans la peau de l'autre. Alors, qui est rentré dans la tête de l'autre? Mais c'est sûr que c'est formidable à suivre. Et en plus, c'est court, c'est excitant. On a une Française. C'est franchement génial.
C'est un vrai combat mental et ce sera à 13h15 à suivre sur RMC avec cette dernière course de la saison et peut-être le Graal donc pour Lou Jean Monod. Alors, il y a un autre événement, Julien.
Moi, ça me
j'aimerais qu'on en parle.
Au cyclocross.
Oui, c'est vrai. Sauf qu'il y a pas la caravane.
C'est vrai. Il y a un autre événement aujourd'hui à Oslo, Julien, c'est la dernière course des frères Bø. Beaucoup d'émotions chez eux en Norvège, j'imagine. Hein.
Ah ouais, c'est cette page du biathlon qui va se tourner. Hier, comme un symbole d'ailleurs, on a eu Sturla Laegrid, le compatriote de Johannes Bø, qui a remporté le gros globe de cristal, le classement général de la Coupe du Monde, en devançant justement Johannes Bø, quintuple vainqueur de ce classement général. Donc cette fois, aujourd'hui sur la Master, ce sera vraiment la dernière danse. Il n'y aura plus aucun enjeu sportif, si ce n'est de savourer ces derniers tours de piste avec Tarier également, le grand frère, qui n'avait pas pu disputer le sprint et la poursuite cette semaine parce qu'il était malade. Ses œufs, le Maine Colen. Tarier, souvenez-vous aussi qu'il a remporté le gros globe en 2011, hein, c'était juste avant les années Fourcade, avant l'ère Fourcade, on va même dire, et juste avant que Johannes ne prenne le relais. Donc c'est assez spécial ce qui va se passer aujourd'hui. D'ailleurs, Martin Fourcade a fait le déplacement pour vivre ces derniers tours de piste des frères Bø. Et puis, il suffit d'écouter Quentin Fillon-Maillet qui a terminé troisième hier sur la poursuite pour comprendre qu'il laisse une trace indélébile et surtout, ils font l'unanimité et en particulier Johannes Bø. Quentin Fillon-Maillet.
Il est fondamentalement gentil et j'adore vraiment, on charrie beaucoup, on apprécie partager ces moments sur la guerre sur la piste parce que je sais pas, il y a une rivalité mais qui est vraiment saine et que j'apprécie et voilà, c'est dommage qu'ils partent parce qu'ils en partent une grosse partie de biathlon avec eux, Tarier aussi. C'est triste, hein, le biathlon sera différent sans eux, mais bon, c'est les cycles comme ça et il y a plein d'autres jeunes très talentueux qui arrivent aussi et pas dit qu'on retrouve un Johannes Bø tout de suite.
Et je suis en place déjà à Oslo dans la tribune, l'immense tribune. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de supporters. Et on parle des supporters norvégiens qui vont dire adieu, mais il n'y a pas seulement ça. Il y a beaucoup de Français aussi qui sont venus spécialement. Et juste sur deux minutes, j'y sais peut-être si on a le temps. Mais j'ai deux Bretons qui sont à côté de moi. J'ai Philippe et Marie qui sont venus spécialement pour dire au revoir à Johannes Bø, c'est ça?
Oui, tout à fait. Parce que c'est un tel champion. Et puis c'est quelqu'un d'extrêmement disponible et qui refuse rarement une photo, qui est toujours dispo et il a une telle carrière que bon, c'était pas prévu mais au dernier moment on s'est décidé, on est venu.
Oui, non, mais moi je voulais dire au revoir à Johannes parce qu'il est très, très très sympathique avec nous, avec les Français en général.
Mais il est batté quand même des fois les Français, souvent même.
Oui, mais c'est quelqu'un de super et j'étais fan de lui.
Merci beaucoup et on vous laisse savourer cette grande dernière. Donc, mais voilà, c'est pour vous illustrer vraiment que au-delà des Norvégiens, au-delà de tout ça, c'est vraiment un gars qui fait l'unanimité, qui est apprécié par tout le monde.
Même les Français se sont pris d'affection pour Johannes Bø.
C'est même plus que ça, c'est que hier, pendant le direct, Julien était avec Quentin Fillon-Maillet. Quentin Fillon-Maillet nous a dit hier en live qu'aujourd'hui, puisqu'il n'y a plus d'enjeu pour eux, puisque Johannes Bø va être sacré, s'il était en possibilité d'arriver avec lui, il le laisserait gagner par respect. T'imagines, toi, l'immense du champion et surtout l'homme. Parce que si t'es le champion et que tu tapes sur l'autre, t'as pas envie de le laisser gagner. Là, tellement il y a des liens forts.
Tu veux dire qu'il
n'y
a pas tout à fait les mêmes. C'est pas la même personnalité d'un Lance Armstrong et d'un Johannes Bø, par exemple.
Ça ressemble à quelques petites choses près.
Je pensais pas qu'on ferait ce parallèle entre Johannes Bø et Lance Armstrong, mais quand il y a Jérôme Pino, on est
capable de faire beaucoup d'imagination.
C'est
pas très glorieux pour eux, mais pas tout à fait pareil. Et pas du tout pareil.
Ok, en tout cas, une journée de biathlon magnifique à suivre sur RMC avec aux commentaires, vous l'avez bien compris, Julien Richard. Et puis cette course surtout. Déjà de Lou Jean Monod et les frères Bø, c'est à quelle heure?
15h40.
Ce sera. Oui, exactement.
15h40. Et ben voilà, parfait. Je te demanderai évidemment.
Ce sera en intégralité, là aussi, dans l'Intégral Sport cet après-midi avec Julien.
Ouais, vous allez vous régaler.
C'est le
sur
bilan
RMC.
De la saison de biathlon avec, avec des invités, on l'espère, et avec du direct.
À tout à l'heure, Julien, évidemment, en direct d'Oslo. Nous, on se retrouve dans quelques instants pour Milan San Remo. Est-ce que vous retenez le triomphe de Van der Poel ou le nouvel échec de Pogacar? Les GG ne sont pas d'accord. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.